Monsieur Cassaro, bonjour.
Bonjour.
Merci de prendre quelques instants pour répondre à quelques questions sur notre radio.
Merci à vous pour votre invitation.
Donc, question sécurité. Selon vous, les forts bachois se sentent-ils en sécurité ?
Alors, on ne peut pas répondre à cette question parce que je pense que la réponse serait différente selon les forts bachois qui répondent. Néanmoins, la municipalité en place doit tout faire pour assurer la sécurité des forts bachois. Notamment, nous, ce que nous proposons, c'est de faire en sorte que la police municipale coopère davantage avec la police nationale.
Oui.
Et c'est pour cette raison que nous proposons la mise en place de patrouilles mixtes, donc police nationale, police municipale, ce qui permettrait à la fois à la police nationale de bénéficier d'informations de terrain de la police municipale, et par ricochet, ça permettrait à la police municipale de monter en compétence. Nous souhaitons aussi pouvoir rendre encore plus efficaces les interventions de la police municipale en mettant en place une hotline, donc un numéro de téléphone direct relié à la police municipale pour qu'elle puisse intervenir en cas d'incivilité, en cas de déchets sauvages, en cas d'insécurité du quotidien, etc. Aussi, on a envie de rassurer les forts bachois et les forts bachois au sujet des cambriolages. Et pour cela, on propose la mise en place du dispositif voisin vigilant.
Oui.
Voisin vigilant, c'est quoi ? Et bien, en fait, c'est la mise en réseau de voisins d'un pâté de maison, d'un lotissement ou d'un quartier. Ensemble, ils peuvent plus facilement détecter les comportements suspects ou les individus suspects.
Ouais.
Et donc, ils peuvent les déclarer à la police et faire en sorte que la police puisse ensuite intervenir dans ces cas-là. En France, en moyenne, les lotissements qui ont mis en place ce dispositif ont vu le nombre de cambriolages baisser de 40%. Donc il faut à tout prix l'expérimenter à Forbach. En parlant de sécurité, il faut aussi parler de sécurité routière.
Oui.
Parce qu'on connaît à Forbach un certain nombre de routes où ça roule trop vite. Je pense par exemple à l'allée des conifères, à l'allée des sapins, à l'allée du rond-point au Brouhers, la rue Henri Kaufmann et la rue Bauer à Bellevue, la rue du Bois, la rue du Puy-Trois au Kreuzberg. Voilà, je pourrais encore citer plein de rues. C'est en général des rues qui sont en ligne droite.
Oui.
Et donc, il faut mettre en place des systèmes de ralentissement. Alors, des coussins berlinois ou des gendarmes couchés, parce que justement, contrairement aux dodanes, ça ne fait pas de bruit.
Oui.
Et ça ralentit tout autant. Et il faut aussi pouvoir accentuer les contrôles radar.
Oui.
Parce qu'une fois qu'on verbalise les auteurs des excès de vitesse, eh bien, du coup, ils réfléchissent ensuite à deux fois avant d'appuyer sur le champignon.
Oui. Avez-vous la volonté de renforcer les moyens matériels de la police municipale et de quelle façon ?
Ce qui est certain, c'est que si nous sommes élus, il va falloir réaliser un diagnostic des équipements de la police municipale, vérifier notamment si la vidéosurveillance fonctionne bien, si toutes les caméras fonctionnent bien. Si ce n'est pas le cas, faire en sorte qu'il y ait une intervention pour qu'elles soient toutes opérationnelles. Regardez aussi le parc automobile de la police municipale, et s'il y a lieu de le changer, on le change, parce qu'il faut globalement que la police municipale puisse bénéficier d'un équipement moderne.
Oui. Question migration. De nombreux forts bachois ont exprimé que les migrants représentent un souci. Vous, qu'en pensez-vous et quelles solutions apportez-vous concrètement ?
Alors, plus précisément, donc on parle de la situation actuelle de l'ancien hôtel Ibis.
Tout à fait.
À Mützbichren. C'est un hôtel qui est occupé par des demandeurs d'asile. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une compétence communale, ce n'est pas non plus une compétence intercommunale, c'est une compétence de l'État, et c'est le préfet qui décide de loger ces demandeurs d'asile à cet endroit.
D'accord.
Alors, évidemment, nous pensons que c'est une mauvaise solution, parce que on y a créé un ghetto,
oui.
Et moi qui suis attaché à une valeur comme le respect de l'humain, je ne peux accepter cela. Je ne peux pas accepter cela pour cette population, parce que ce n'est pas un accueil qui est digne de ce nom. Et ce n'est pas acceptable non plus pour le voisinage, pour qui cela cause un certain nombre de désagréments. Donc il va falloir demain que la municipalité travaille de concert à la fois avec l'État, mais aussi avec des acteurs sociaux, comme la Fondation Abbé Pierre, pour faire en sorte que ces demandeurs d'asile ne soient pas logés qu'à un seul endroit, qu'ils puissent être logés dans d'autres endroits à travers la Moselle-Est, et éviter la constitution de ghettos. Il faut favoriser bien sûr l'insertion de ces personnes et faire en sorte que les enfants soient scolarisés dans de bonnes conditions.
Merci. À la suite de la crise sanitaire maintenant, ce sont vos actions et votre présence sur le terrain qui vous ont mené à rédiger les 35 nouvelles propositions?
Alors, évidemment, la crise sanitaire qu'on a connue, elle a eu un certain nombre de répercussions, oui. Notamment des répercussions économiques, oui. et sociales. Et on s'est rendu compte que toutes les transitions qui étaient en cours dans notre société se sont accélérées avec cette crise. On peut parler notamment de la transition numérique, oui. Et notamment un certain nombre de nos concitoyens ont expérimenté les outils digitaux à titre privé, notamment pour la visioconférence avec les proches, puisqu'on était séparés de nos familles pendant cette période de confinement, mais également la visioconférence dans le cadre du télétravail, parce oui. que beaucoup de nos concitoyens ont dû télétravailler. Transition énergétique aussi, parce qu'on s'est rendu compte, avec le confinement, que la nature pouvait reprendre ses droits, et nos concitoyens se sont rendus compte que la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation, c'était très important. On pourrait aussi parler d'autres transitions, comme la consommation locale, qui, oui. je pense, va s'accentuer, et la relocalisation d'entreprises, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui, à un moment donné, étaient parties en Asie, qui maintenant vont certainement revenir en Europe. Il faudra que le Grand Est soit suffisamment attractif, oui. pour en attirer un certain nombre. Oui. Et ensuite, il faudra qu'au sein du Grand Est, l'agglomération de Forbach soit suffisamment attractive, oui. pour accueillir de nouvelles entreprises. Et donc, sur la base de ces constats-là, on a effectivement construit de nouvelles propositions sur la santé, sur l'emploi, sur l'environnement, sur la solidarité et sur l'éducation. Effectivement, vous avez évoqué les actions de solidarité que nous avons mises en place. On est parti du principe qu'en tant qu'acteur public, nous devions prendre nos responsabilités et faire en sorte de faciliter la mise en relation entre ceux qui veulent aider, oui. et ceux qui étaient dans le besoin. Et c'est pour ça qu'on a, voulu mener des actions plus particulièrement auprès du personnel soignant.
Et pouvez-vous justement nous donner très brièvement le contenu de ces 35 propositions?
Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la santé,
oui.
nous souhaitons que la municipalité puisse être proactive dans la protection, oui. des Forbachois, et nous proposons la création d'une réserve municipale de masques pour faire en sorte de distribuer rapidement des masques au cas où il y aurait une deuxième vague du Covid-19. Ensuite, nous souhaitons à tout prix défendre l'hôpital Marie-Madeleine et profiter du plan Ségur qui a été lancé par le ministère de la Santé, oui. pour obtenir à Forbach 8 lits de réanimation. Parce qu'on a actuellement 8 lits de réanimation à Saint-Rémy, 8 à Saint-Avold. Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas à Forbach, d'autant plus que la crise a prouvé que le besoin existait. Et enfin, sur la santé, on veut aussi pouvoir développer la coopération transfrontalière, et notamment en créant une zone d'accès aux soins transfrontaliers entre la Moselle et la Sarre. Deuxième point, l'emploi.
Oui.
Hein, donc nous souhaitons soutenir les commerçants, les artisans, les entreprises à franchir justement le cap de la transition numérique et de la transition énergétique afin qu'ils soient plus compétitifs, qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires et qu'ils puissent créer de l'emploi, parce qu'une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires, qui est en situation de croissance, c'est une entreprise qui, in fine, embauche. Et on l'a vu, hein, pendant cette période de confinement, les commerçants, notamment, se sont adaptés. Ils ont mis en place des activités de drive, de commerce en ligne, de livraison. Il faut que les commerces puissent poursuivre ces activités-là en même temps que leur activité normale, parce que du coup, ils peuvent proposer à leurs clients plusieurs canaux de distribution. Donc, d'accord. c'est plusieurs possibilités pour le chiffre d'affaires. Troisième point, c'est donc l'environnement, mmh. Notamment par le biais de la consommation locale, parce que quand on met en place une consommation locale, on assure la qualité de l'alimentation, il y a un bilan carbone qui est moins important, et donc nous souhaitons notamment implanter au cœur de ville un point de vente fermier et bien sûr pouvoir accompagner les Forbachois qui souhaitent s'investir dans le maraîchage.
D'accord.
Et puis on veut créer un conseil de défense écologique qui aurait un droit de regard sur tous les projets structurants de la ville, et nous souhaitons également que la collectivité est une démarche éco-exemplaire, parce qu'on ne peut pas promouvoir l'environnement si la collectivité elle-même ne fait pas des efforts, notamment par exemple en termes de réduction de papier.
D'accord.
Quatrième point, c'est la solidarité.
Oui.
Nous souhaitons implanter à Forbach une maison de la solidarité qui serait un point de rencontre et un point d'accueil unique pour toutes les personnes dans le besoin, les personnes les plus démunies, les victimes de violences conjugales. Nous souhaitons aussi avoir une action particulière auprès des seniors, faire en sorte qu'ils puissent maintenir un lien social permanent, ce qui évite un glissement de l'état de santé. Et nous souhaitons lancer un plan canicule à l'échelle communale, dans les quartiers, avec des distributions de brumisateurs, d'eau fraîche, etc. Dernier point, c'est l'éducation.
Oui.
Parce qu'on s'est rendu compte, pendant cette période, que puisque les écoles étaient fermées, certains écoliers n'ont pas été en cours 2 voire 3 mois, donc les inégalités se sont creusées. On a aussi remarqué une fracture numérique entre d'un côté les familles qui avaient le bon équipement, la bonne connexion internet, l'espace suffisant chez eux, et les familles qui n'avaient pas tout ça.
D'accord.
Donc là, il y a 2 actions à mener. La première, c'est du soutien scolaire dès cet été pour ceux qui ont pris du retard. Et la deuxième solution, bien, c'est de faire en sorte de créer des mini-espaces multimédia dans les quartiers, dans les centres sociaux, dans les foyers, pour que les familles puissent accéder à du matériel de pointe.
Très bonne idée, oui. Question urbanisme. Dans le programme En Rue et le cœur de ville, il y a des choses définies et des choses modifiables. Si vous êtes élu, quel changement apportez-vous ?
Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'action cœur de ville, qui est une occasion historique pour redynamiser notre centre-ville, donc ce serait totalement incongru de passer à côté de cela, nous souhaitons nous mettre le paquet sur la rue nationale. Et nous voulons lui donner une nouvelle identité avec une ville haute consacrée au commerce,
oui.
Le commerce de différenciation, le commerce de niche qu'on ne trouve pas dans les zones, et avec notamment en mairie un manager de centre-ville qui sera là pour fédérer la vie commerçante, attirer des nouveaux commerçants. Le milieu de la ville, donc du restaurant Jean jusqu'à la médiathèque, qui serait consacré à l'artisanat, à la culture et à l'animation, parce que vous avez la place Aristide Briand qui se prête très bien à cela.
Oui.
Et on sait que s'il y a régulièrement des festivités dans une ville, ça attire du flux et donc ça rejaillit positivement sur les commerces autour. Et enfin, le bas de la ville, nous souhaitons en faire un pôle de santé, avec d'ores et déjà la maison médicale que j'ai accompagnée en tant que conseiller régional, le laboratoire, la pharmacie, etc. Parce que lorsque des forbachoises et des forbachois viennent se soigner au centre-ville, ils ne feront pas que passer par leur médecin, elles passeront aussi dans le centre-ville, elles pourront aller chez les artisans et chez les commerçants qui sont dans notre cœur de ville. Et par-dessus tout, il faut que notre centre-ville soit davantage touristique. Et nous souhaitons, par le biais d'un marché des saveurs régulier, attirer la clientèle sarroise, parce qu'on sait que la clientèle sarroise, elle est attirée par les spécialités françaises. En ce qui concerne l'ANRU,
oui.
Donc l'ANRU, c'est aussi une occasion historique pour que le Wiesberg et une partie de Bellevue puissent redorer leur image, faire en sorte que les habitants s'y sentent bien, qu'ils aient envie de fonder une famille sur place. Et donc, il faut dans un premier temps écouter la population. Donc, nous allons lancer des états généraux du Wiesberg, les états généraux de Bellevue, pour écouter les gens. Et en fonction de ce que les gens disent, on va co-construire le projet. Néanmoins, nous avons déjà quelques lignes directrices. Ce que nous souhaitons notamment pour le Wiesberg, premièrement, c'est de pouvoir rénover les bâtiments, qui est une meilleure isolation et une meilleure accessibilité pour les seniors et pour les personnes à mobilité réduite. Deuxième point, c'est exploiter davantage les espaces verts au Wiesberg, pour que ce soit des lieux de repos pour les familles, qu'il y ait des aires de jeu pour les enfants, qu'il y ait des parcours sportifs pour ceux qui veulent faire du sport.
Oui.
Troisième point, nous souhaitons qu'il y ait davantage d'activités économiques au Wiesberg, et notamment, ce que nous souhaiterions, c'est que dans les tours des Dahlias, il y ait des activités de bureau, des services administratifs ou des services centraux d'entreprises locales, pourquoi pas aussi des plateformes téléphoniques, parce que lorsqu'il y a de l'activité économique dans un quartier, forcément, ça va générer du commerce autour de cela, pour le boulanger du coin, pour l'épicier du coin, ce sera intéressant. On souhaite aussi rénover l'école du Wiesberg. Alors ça, c'est déjà écrit noir sur blanc dans le projet actuel. Et nous souhaitons faire notamment de l'école du Wiesberg une école moderne à la pointe technologique.
Merci. Question finance maintenant. Où allez-vous faire des économies, dans quel secteur et comment réduire la dette de la ville ?
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la dette de la ville a déjà baissé,
oui.
Puisqu'elle était en 2008 de 51 millions d'euros et qu'elle est à présent de 37 millions d'euros.
C'est ça, oui.
Aujourd'hui, nous avons un budget qui est de 38 millions d'euros, avec 26 millions en fonctionnement et 12 millions en investissement.
D'accord.
S'il y a une telle disparité entre le fonctionnement et l'investissement, c'est parce que Forbach est une ville de 20 000 habitants, oui, avec des infrastructures d'une ville de 40 000 habitants, mmh, et des moyens financiers d'une ville de 10 000 habitants.
D'accord.
Donc, c'est effectivement assez, assez problématique, et c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas promettre tout et n'importe quoi.
C'est moins honnête de votre part.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, il va falloir aussi, je pense, faire un état des lieux sur les finances, sur les finances de la ville, pour faire en sorte de trouver des économies là où il y a lieu dans l'enfer, ce qui nous permettra d'investir ensuite dans les politiques structurantes, notamment dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est notre priorité. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on ne pourra pas mettre en place des projets structurants,
oui,
si nous n'avons pas des partenaires financiers. Aujourd'hui, avoir des partenaires financiers pour la ville de Forbach, compte tenu de la situation budgétaire,
oui, oui,
c'est la condition sine qua non pour réaliser nos projets.
D'accord.
C'est pour ça que, je le disais, l'Action Cœur de Ville, l'ANRU, mmh, demain Terre de Jeux 2024 pour les infrastructures sportives, c'est des dispositifs dans lesquels il faut rentrer, parce mmh qu'on a des dotations de nos partenaires pour pouvoir cofinancer tout cela. Mais j'irai même plus loin.
Oui.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir créer en mairie un service des affaires européennes dont l'objectif serait d'assurer une veille sur tous les fonds européens qui existent.
D'accord.
Et pouvoir bénéficier de fonds européens dès lors que nous mettrons en place des projets.
Super. Vous engagez-vous à n'augmenter aucun impôt local et aucune taxe locale si vous êtes élu maire ?
Alors, il y a deux engagements que nous avons pris.
Oui.
Ce sont d'ailleurs les premiers engagements. Premièrement, nous n'augmenterons pas la dette. Et deuxièmement, nous n'augmenterons pas les impôts locaux. Pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter la dette ? Parce que si on augmente la dette, on va aussi augmenter ce qu'on appelle la charge de,
d'accord,
la dette,
oui,
qui pèse sur le budget de la ville. Et donc ça, ce serait problématique pour l'entretien de nos infrastructures.
Si vous êtes élu maire, excusez-moi.
Et pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter les impôts locaux ? Parce qu'il en va du pouvoir d'achat des Forbachois. Aujourd'hui, les impôts locaux sont déjà trop importants à Forbach, donc il ne faut surtout pas les augmenter. Et si nous réussissons à faire des efforts sur le budget de la ville, nous pourrons,
d'accord,
même les baisser.
Super. Vous engagez-vous donc à ne créer aucune autre taxe ?
Et je m'engage à ne créer aucune autre taxe.
Et que diriez-vous à nos habitants qui ne souhaitent pas se rendre aux urnes dimanche pour des raisons sanitaires ?
Alors, voter est un droit, mais c'est aussi un devoir.
Oui.
Toutes les élections sont évidemment importantes, mais s'il y en a une qui l'est vraiment, c'est l'élection municipale, parce que l'élection municipale, c'est votre quotidien. C'est vos routes, donc votre voirie, c'est les écoles de vos enfants, c'est le cœur de ville, c'est la rénovation des quartiers. C'est donc aussi votre patrimoine, parce que si vous avez une ville qui est attractive, avec de beaux quartiers, avec un beau centre-ville, vous allez pouvoir valoriser votre patrimoine.
C'est
et c'est effectivement très important. Si vous avez un maire qui est responsable, qui a une gestion rigoureuse des finances publiques, eh bien, il va pouvoir, à un moment donné, baisser les impôts. Donc, élire l'élection du maire, c'est une élection qui est importante pour le quotidien de chacun.
Super. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et puis, bonne chance pour dimanche.
Merci beaucoup.